VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Human Rights Watch a exhorté aujourd'hui le Nigeria à libérer des milliers d'enfants détenus par l'armée en raison de liens présumés avec les insurgés islamistes du groupe Boko Haram. L'Organisation des droits de l'homme affirme dans un rapport que des milliers d'enfants sont détenus arbitrairement dans des conditions dégradantes et inhumaines dans les cellules, en particulier dans la caserne de Giwa, dans la ville de Maiduguri, située dans le nord-est du pays. Selon les Nations Unies, 3 600 enfants, dont 1 617 filles, ont été détenus de janvier 2013 à mars 2019 pour leur implication présumée dans des groupes armés. Au Mali, plusieurs centaines de personnes ont manifesté lundi pour protester contre l'insécurité et les assassinats à Badiangara. Les manifestations de Tombouctou et Ménaka sont liées à l'insécurité et au mauvais état des routes dans la région. Kassim Traoré.
Nous voulons cultiver nos champs, vivre la paix au pays Dogon, non aux arrestations illégales. C'est ce qu'on pouvait lire sur les banderoles des manifestants de Badiangara. Nous sommes sortis pour demander l'arrêt total du désarmement forcé, protester contre le bombardement des camps de Dana Amasagou, la sécurisation du pays Dogon et la mobilisation contre la faim, nous indique Aminata Nantoumé qui faisait partie de cette marche. À Ménaka comme à Tombouctou, les jeunes demandent la sécurité sur la route, la construction de la route Ansongo-Ménaka et Ménaka-Andraboukan. L'arrêt des travaux de construction de la route Gomakura-Léré-Tombouctou est la principale cause de la révolte des jeunes de Tombouctou qui ont bloqué l'aéroport de la ville. À cause de ces manifestations, le gouvernement a animé un point de presse. Yaya Sangaré, ministre porte-parole du gouvernement.
L'obligation de redevabilité est une raison d'État à laquelle le gouvernement du Dr Bobo Cissé ne se soumet. Mais dans un contexte de rarité des ressources, le gouvernement n'a pas les moyens et ne peut satisfaire tout et tout de suite.
Dans la ville de Gao aussi, les jeunes préparent une grande mobilisation ville morte le vendredi prochain. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, les attaques terroristes se sont multipliées ces derniers jours. Entre dimanche et lundi, au moins 35 personnes ont été tuées dans des attaques djihadistes dans le nord du pays. Ces attaques ont provoqué des exodes de population, notamment dans le nord. La seule ville de Djibo, par exemple, accueille plus de 50 000 déplacés internes. Oumarou Diko est député maire de Djibo.
Nous avons plus de 50 000 déplacés. C'est des déplacés internes de la province même. Ceux qui ont quitté le village et la commune de Djibo, qui sont à Djibo. Il y en a qui ont quitté la commune de Diguel, qui sont à Djibo. La commune de Tongomaï, qui sont à Djibo. La commune de Baraboulé, qui sont à Djibo. Arbinda, Pove Menga, Koutoukou, qui sont à Djibo. Il y a certains réfugiés aussi qui étaient déjà réfugiés maliens, mais eux, ils sont aussi ainsi que les réfugiés.
Et est-ce que vous avez assez d'infrastructures pour les accueillir? Est-ce qu'ils sont dans de bonnes conditions?
Nous n'avons pas d'infrastructures, mais c'est sûr qu'il y a des ONG qui essaient de faire quelque chose, notamment à la Croix-Rouge, il y a le HR, qui essaie de mettre en place des infrastructures pour en tout cas les soutenir.
Alors, on sait que généralement, dans ce genre de groupe de déplacés, il y a beaucoup d'enfants. Et là, c'est la rentrée des classes. Comment cela va se passer?
Ah, vraiment, c'est un danger. Comme quelqu'un le disait, qu'un enfant qui va vivre dans un camp de déplacés, quand il va grandir, ce serait une bombe à retardement. Maintenant, on est en train de voir comment on va faire pour créer des classes supplémentaires. Nous essayons de renforcer les écoles déjà existantes, on les renforce. Et les quartiers centraux qui sont accessibles, nous allons essayer de faire, même si c'est des temps, nous allons demander aux partenaires des temps pour ouvrir des écoles par commune ou bien par village. Voilà, nous allons essayer de faire ça si c'est à Dieu.
Ces gens qui sont arrivés à Djibo, quel genre d'histoire ils vous racontent? Qu'est-ce qui se passe dans leur localité?
Ce qui passe dans les localités, c'est que ces terroristes la partent là-bas et les cherchent. Il y en a qui ont commencé à cultiver leur champ, s'aimer, faire la première labour jusqu'au le bilan, ils les ont chassés. Voilà, les champs sont là, les gens n'ont pas cultivé. Et c'est ça même le danger. Parce que si vous n'avez pas à manger aussi, c'est une autre forme de crime.
Alors, on avait parlé en grande pompe de ce programme d'urgence pour le Sahel. Parlez-nous de l'aide que l'État apporte à Djibo, mais aussi à toute cette région-là.
À ma connaissance, pour le moment, le programme d'urgence Sahel, moi, je n'aime pas en parler parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
Vous trouvez que l'État ne fait pas suffisamment?
Il ne vous fait même pas. n'est pas suffisant. Ce n'est même pas fait.
Et sur le plan sécuritaire, est-ce qu'on sent des renforts à Djibo, mais aussi dans toute la zone?
Pour le plan sécuritaire, Dieu merci, en tout cas, il y a des renforts. En ce qui concerne Djibo, vraiment, nous sommes très contents. La sécurité, les forces de défense sont en train de travailler. Ça se passe bien actuellement.
Oumarou Diko, député maire de Djibo, il a été joint par Bagassi Koura. Après une semaine de violences xénophobes en Afrique du Sud, qui ont fait 12 morts, le Nigeria va rapatrier quelques 600 de ses ressortissants. Ekia Abadou.
Après 3 jours d'accalmie, de nouvelles violences ont éclaté dimanche dans plusieurs quartiers de Johannesburg. Au moins 2 personnes ont été tuées, portant le bilan à 12 morts. Plusieurs commerces tenus par des étrangers ont été pillés. Dans sa 3e intervention en moins d'une semaine, le président Cyril Ramaphosa a assuré que son gouvernement ne laisserait pas l'anarchie et la violence s'installer. Il a rappelé que la majorité des étrangers respectent la loi et ont le droit de vivre en paix. En réaction, la présidence nigériane à Abuja, après avoir reçu son émissaire spécial à Pretoria, dit avoir donné les instructions nécessaires pour l'évacuation immédiate de tous les Nigérians qui souhaitent rentrer à la maison. Le consulat nigérian à Johannesburg a annoncé que 600 personnes environ sur plus de 100 000 Nigérians vivant en Afrique du Sud doivent être rapatriés à partir de demain mercredi.
Les observateurs électoraux déployés par l'Union européenne ont appelé lundi les autorités tunisiennes à respecter le principe d'égalité des chances à l'élection présidentielle du 15 septembre en permettant au candidat Nabil Karoui, un publicitaire controversé, actuellement en prison, de faire campagne. Monsieur Karoui est accusé de fraude fiscale et blanchiment d'argent. Il a été arrêté le 23 août dernier, 10 jours avant la campagne électorale, poussant nombre d'observateurs à déplorer une instrumentalisation de la justice. Sa candidature a néanmoins été validée par l'instance indépendante chargée d'organiser les élections. La justice marocaine a décidé lundi de renvoyer au 16 septembre le procès pour avortement illégal d'une journaliste marocaine, Aja Raissouni, 28 ans, reporter au quotidien arabophone Akbar Al-Youaoum, risque jusqu'à 2 ans de prison. L'équipe de défense a longuement plaidé pour sa remise en liberté devant une salle comble, mais le tribunal de Rabat a délibéré pendant plusieurs heures avant de rejeter leur demande.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Hors du continent, des avions russes ont mené aujourd'hui 2 frappes visant des groupes djihadistes dans le nord-ouest de la Syrie. Premier bombardement aérien sur la région depuis l'annonce par Moscou d'un cessez-le-feu il y a 10 jours, indiqué l'Observatoire syrien des droits humains, l'OSDH. La province d'Idlib et des secteurs adjacents dominés par les djihadistes font l'objet depuis le 31 août d'un cessez-le-feu annoncé par Moscou après 4 mois de bombardement du régime syrien et de son allié russe qui ont tué, selon l'OSDH, plus de 960 civils. Les frappes aériennes avaient été suspendues depuis, même si sur le terrain, le cessez-le-feu était régulièrement violé. Les talibans ont averti aujourd'hui que les combats continueraient en Afghanistan si les États-Unis abandonnent les discussions sur un retrait de leurs troupes, comme l'a déclaré le président américain Donald Trump en affirmant qu'elles étaient terminées pour de bon. Les propos du locataire de la Maison-Blanche tranchaient avec ceux de son chef de la diplomatie, Mike Pompeo, qui n'avait pas exclu dimanche une reprise des discussions avec les insurgés afghans. La Corée du Nord a tiré aujourd'hui 2 nouveaux projectiles, quelques heures après avoir proposé aux États-Unis de reprendre fin septembre les négociations sur son programme nucléaire, au point mort depuis février. Les 2 projectiles non identifiés ont parcouru environ 330 km en direction de la mer du Japon. Un haut responsable du gouvernement américain a indiqué avoir été informé de ces nouveaux tirs et assuré que Washington suivait la situation de près avec ses alliés dans la région. Et puis les députés britanniques ont rejeté à nouveau tôt ce mardi la tenue d'élections législatives anticipées voulue par le Premier ministre conservateur Boris Johnson lors de la dernière séance avant une suspension du Parlement pendant 5 semaines. La motion du gouvernement n'a obtenu que 293 voix, soit bien moins que la majorité des 2/3 de la Chambre des communes requise pour être adoptée. Il s'agit du dernier d'une série de revers parlementaires pour Boris Johnson. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes avec Harry.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.